Et ça s'appelle comment?
C'est du Semtex. Ça a été mis au point dans les années 60, en Yougoslavie. On n'en fabrique plus maintenant. Et il paraît qu'il en reste 40 000 tonnes dans le monde. Et si tu le conserves bien, tu peux le garder pendant des années. C'est ce qu'ils ont fait en Libye.
Et ça, ça vient d'où?
Il y a eu un vol dans un site de sécurité civile, dans une banlieue de Lyon. Ils ont volé 30 kilos.
Elle a combien?
Là, il y a à peu près 250 grammes. Et en tout, j'ai récupéré 4 kilos. Et déjà, avec 250 grammes, tu peux détruire un avion.
Laura Adler, L'heure bleue, sur France Inter.
Ce soir, dans L'heure bleue, c'est Bertrand Bonello, notre invité. Vous avez peut-être retrouvé une partie de son dernier film qui est maintenant disponible en DVD, Nocturama. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et devant un artiste musicien qui est aussi cinéaste, c'est difficile. J'espère que ça va lui plaire. En tout cas, nous avons choisi Foxygène, Follow the Leader. C'était quand la première fois que vous êtes allé au cinéma, Bertrand Bonello?
Alors la première fois au cinéma, Je dirais dans les années 70 à Nice, et je me demande si c'était pas un James Bond avec Roger Moore.
Et ensuite ?
Et après, j'allais pas tellement au cinéma, j'habitais plutôt à la campagne. Après, moi, ma vraie découverte du cinéma, ça a vraiment été l'arrivée des VHS, et du magnétoscope et des vidéoclubs, qui, quand on habitait un peu en province, a été une mine d'or.
Alors, vous avez des parents qui sont tous les deux des artistes, vous avez vécu une enfance assez bienheureuse, je crois, au milieu de la beauté et de l'approche de la beauté. Il en reste d'ailleurs des traces dans un de vos films assez récents qui s'intitule La Polonide. Est-ce que vous pensiez que vous aussi, vous deviendriez un artiste ?
À cette époque-là, en fait, mes parents n'étaient pas artistes, mais ils étaient proches des artistes. Donc, on avait une maison qui était vraiment ouverte aux artistes. Et moi, c'était un moment où je faisais énormément de piano. Destiné ou pas à devenir pianiste, mais enfin j'en faisais vraiment beaucoup.
Pianiste-compositeur ou pianiste
non,
de concert?
Pianiste de concert. Et j'avais assez envie de devenir chef d'orchestre, qui pour moi ça représentait à ce moment-là le plus beau métier du monde. Arriver avec juste ses mains et sa tête à fabriquer de la musique, ça me semblait absolument merveilleux.
Mais est-ce qu'un réalisateur de cinéma aujourd'hui n'est-il pas à sa manière un chef d'orchestre?
Voilà, c'est une espèce de translation peut-être un peu logique. Je pense quand même que le réalisateur peut se permettre d'être un petit peu plus dilettante que le chef, ne serait-ce que même par rapport à un acteur. On peut le laisser venir, etc. Alors que je pense que quand on a un orchestre en face de soi, on peut pas laisser venir. Il faut vraiment diriger. Mais il y a un petit peu le oui, c'est un peu le même ordre d'idée.
Et le scénario est-il une partition pour vous, Bertrand Bonello ?
Complètement, oui. Moi, je le pense comme ça, comme une espèce de... D'abord, je pense beaucoup à des structures de partitions de musique en écrivant, oui. Surtout sur la musicalité du rythme, en fait.
Alors, je le disais au tout début de cette émission, vous êtes avant tout un musicien. D'ailleurs, vous composez les musiques de tous vos films, sauf, je crois, celle de Tirésias. Et la musique est omniprésente à l'intérieur de la sensation, de l'émotion et de l'hypnose que vous réussissez à créer grâce à vos images. Est-ce que la musique vient avant le scénario ?
En fait, elle vient exactement en même temps, et surtout pas après. C'est-à-dire que j'envisage moi la musique comme quelque chose de narratif, au même titre qu'un dialogue ou qu'une didascalie, et non pas comme quelque chose d'illustratif qui viendrait ensuite souligner une émotion. Donc, pendant que j'écris le scénario, je pense le son de manière générale du film, et donc soit je choisis les morceaux qui seront dans le film, soit je commence en effet à enregistrer un petit peu des choses pour au moins trouver la couleur, la texture, mais m'en servir comme quelque chose qui raconte quelque chose, oui.
Alors, il y a beaucoup de cinéastes qui utilisent la musique comme un matériau qui vient dramatiser l'action. Or, vous, on a l'impression, et quand on revoit Nocturama, qui est disponible maintenant en DVD, que la musique va venir rythmer le destin des personnages, et que peut-être sans cette musique, et je pense à l'ouverture de votre film Nocturama, eh bien, il n'y aurait peut-être pas de film.
Oui, à un moment, c'est une grande question. Où est-ce qu'on en met, où est-ce qu'on en met pas? Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi. Et l'ouverture du film qui pourrait avoir quelque chose de quasi documentaire.
Et de symphonique.
Oui, et tout d'un coup, de mettre un contrepoint musical nous fait basculer sur ces décors qu'on connaît très bien de métro, nous fait basculer totalement du côté de la fiction. Puis après, on la coupe et on repart avec les personnages. Voilà. Donc, c'est la musicalité, elle est aussi évidemment dans les creux de musique aussi. Et ça, c'est des choses que j'essaie d'anticiper dès l'écriture du scénario.
C'est quoi le cinéma pour vous aujourd'hui, Bertrand Bonello ?
Ah, c'est une grande question. Il y a une mutation. Voilà, le cinéma, c'est quelque chose qui est très vivant, qui est en mutation. Il y en a qui disent qu'il est mort, il y en a qui disent que c'est autre chose. Le cinéma, c'est quelque chose comme disait Coppola, je veux dire, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut en regarder. Ça fait partie des grandes mutations. On peut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste comme ça. Donc c'est un rapport démocratique au récit, peut-être comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. Après, moi, dans ce flot d'images qu'on a aujourd'hui, j'ai pas envie de penser que une image de cinéma, c'est une image de plus. Voilà, c'est quand même une image de cinéma. Donc j'essaie quand même de garder...
Ça voudrait dire une image supérieure à toutes les images qui nous environnent.
En tout cas, pas forcément supérieure, mais pas dans le flow, quoi. Voilà, c'est pas une image de plus qui vient s'additionner à tout ce qu'on subit. Et, j'essaie quand même de lui garder, sans le mettre à l'église, mais quelque chose d'un peu sacré. Voilà.
Parce qu'elle est cadrée, parce qu'elle est choisie, parce qu'elle est composée comme un tableau.
Parce qu'on espère qu'elle est pensée, en tout cas, même au moment où elle arrive, oui.
Nous allons écouter Robert Bresson, c'était au micro de François-Régis Bastide. Il va parler de la belle image, archive INA, du 15 janvier 1950.
De la peinture, je ne tire que des lois générales, mais comme absolument intuitivement, je tourne le dos à ce qui pourrait faire penser à un tableau, oui, ou à une belle image. C'est-à-dire que je fuis la belle image.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je ne cherche pas de belles photographies, je cherche des photographies nécessaires, ce qui n'est pas la même chose. Mais il est évident que si vous voulez toucher le spectateur du film, il faut aussi que cette image soit ordonnée, de même qu'il faut que soient ordonnés tous les éléments du film. Donc il est possible que là, il y avait un souci de composition, qui est d'ailleurs mon souci habituel, mais qui n'est pas du tout dans le sens de la belle image.
Alors, la belle image, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Bertrand Bonello? Est-ce que vous reprendriez la définition de Robert Bresson, même si le cinéma a énormément évolué depuis? C'est-à-dire que ce ne sont pas les flux des images qui vous intéressent, mais c'est la composition du cadre qui
prégne. Oui, c'est dans ce sens-là où je disais une image
qui
pensée.
Qui devient,
quoi,
plus prégnant.
Une image pensée, c'est un petit peu aussi ce qui raconte. La belle image, c'est la gratuité de l'esthétique et non pas quelque chose qui va s'inscrire. Il y a quelque chose qui dit souvent sur le montage aussi, qui est assez beau, c'est que on prend quelque chose d'anodin à l'école et ça fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc c'est ça, penser l'image dans sa position dans le récit, alors qu'une belle image, et ben tout de suite, il y a quelque chose évidemment de péjoratif. On pense à la carte postale, à la gratuité et non pas à la structure.
Alors on vous a accusé, certains méchants esprits vous ont accusé, vous qui êtes un artiste cinéaste, de céder justement aux belles images, aux beaux scénarios, aux success stories, notamment quand vous avez fait Yves Saint Laurent. Et pourtant, ce film qui a été présenté au Festival de Cannes il y a quelques années, ne sacrifiez pas à la belle image.
Après, quand on fait un film sur Saint-Laurent, je pense qu'on se doit quand même d'avoir une envie d'esthétique à la hauteur d'une robe Saint-Laurent, presque.
Mais bah, vous n'étiez pas privé de nous montrer de vrais défilés Saint-Laurent.
Oui, non, tout à fait. Mais il y a quelque chose aussi par rapport à l'esthétique aujourd'hui qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on voit un film, que si on pense l'esthétique générale, et je ne veux pas dire juste la belle image, et bah, tout d'un coup, ceci nous éloignerait du spectateur qui a un rapport à l'image maintenant beaucoup plus télévisuel, ou l'image internet ou YouTube, etc., qui d'un coup nous rapprocherait le spectateur du sujet. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On peut très bien ne pas forcément impressionner le spectateur, mais prendre quand même soin à ce qu'on montre, à ce qu'on filme, à ce qu'on éclaire, à ce qu'on cadre.
En même temps, dans votre cinématographie, Bertrand Bonello, il y a plusieurs directions. Vous avez des films très maîtrisés sur le plan du scénario, comme par exemple Yves Saint Laurent ou Nocturama, dans un autre genre. Et puis vous avez des films beaucoup plus poétiques, avec des fulgurances, avec des moments accidentels que vous allez conserver au montage. Je pense par exemple à La Polonide, je pense à Tirésias, je pense à Sur la guerre. Qu'est-ce qui prévaut dans le genre que vous allez donner quand il faut donner la touche finale et faire le final cut, Bertrand Bonello?
En fait, moi, j'ai un peu l'impression qu'au bout d'un moment, c'est le film qui vous domine et qu'il faut juste apprendre à le regarder. Et on peut pas toujours soi-même le dominer. On met en place des choses comme ça et après, il faut apprendre à le regarder. C'est lui qui va un petit peu indiquer là où ça résiste, là où ça résiste pas, là où ça devient gracieux. Alors parfois, c'est dans la maîtrise, parfois c'est dans l'abandon. Et là où c'est souvent le plus beau, c'est quand c'est un mélange entre la maîtrise et l'abandon.
Nous allons écouter la voix de Jim Jarmusch, qui, tout le monde le sait, et je pense que vous en acceptez l'idée, Bertrand Bonello, a fait accéder le cinéma à une sorte de modernité, ou peut-être même de postmodernité. Nous l'écoutons.
Moi, je pense que l'expression humaine, c'est un petit peu comme les vagues dans l'océan, c'est continu. Je ne suis pas nostalgique, mais je suis très attaché à la célébration d'expressions du passé, quelle qu'en soit la forme. Et tout ce qui vous émeut, tout ce qui vous parle, eh bien, on l'intègre en soi, de manière consciente ou non, ça, on se l'approprie. Donc, sans aucun doute, je suis inspiré par tout ce qui m'émeut. Il ne s'agit pas toujours d'art, ça peut être des choses qu'on entend, que l'on voit. Mais les artistes et les scientifiques constituent les gens qui travaillent avec l'imaginaire. Voilà, donc c'est tout à fait ça qui m'inspire. Et je crois que la qualité la plus merveilleuse de l'être humain, c'est la capacité d'imaginer. C'est nécessaire pour la science, pour l'architecture, et pour toutes les formes d'art, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de musique, de peinture. Autrement dit, oui, c'est un petit peu l'église de l'imagination à laquelle je souscris.
Alors Jarmusch.
Ben, c'est vrai que Stranger Than Paradise, c'est quand même pour moi le film qui m'a fait vraiment passer de la musique au cinéma.
C'est, bon, c'est à ce point-là.
Ah, vous étiez tombé juste et pile. Je l'ai pas vu quand c'est sorti, je l'ai vu un petit peu après. Et en sortant de la salle, j'ai eu l'impression d'une voix qui m'était adressée aux gens de ma génération, enfin qui me parlait autant qu'un morceau de rock pouvait me parler.
Vous êtes le petit frère de Jim Jarmusch.
Voilà, exactement, ouais.
Pourquoi ? À cause justement de la découverte des couleurs qu'il a amené au cinéma, du cadre, du rythme, de la pulsation.
Je crois que moi, c'était vraiment quelque chose qui était aussi direct qu'une chanson de rock, et du coup quelqu'un qui s'adressait à moi. C'est pas tant le sujet, etc. C'était, oui, je sais pas, la liberté. Après, il se trouve que Jarmusch est très influencé par le rock aussi et qu'on a, je pense, à peu près les mêmes
goûts. Et qu'il a aussi un groupe de musique, comme vous.
Et qu'il avait un groupe qui s'appelait les Del Byzantines et qu'on a à peu près les mêmes
goûts. Il l'a toujours.
Bon. Mais voilà, tout d'un coup, je me suis dit, je peux aimer faire du cinéma parce que ça peut être aussi bien que la musique.
Aussi bien que la musique, faire du cinéma, et pourtant on n'a pas affaire au même rythme, on n'a pas affaire aux mêmes équipes, on n'a pas affaire à la même somme d'argent, ni aux mêmes responsabilités. Comment s'est opéré ce basculement ? Vous sortez du film de Jarmusch, vous vous dites je vais continuer à être musicien, mais je vais aller dans le cinéma. Alors à ce moment-là, c'est magique, vous ne l'avez jamais appris le cinéma,
non,
pourtant,
Bertrand Bréau. C'est peut-être pour ça que j'y ai un petit peu réussi à y accéder, c'est-à-dire que j'y suis allé avec une immense naïveté et une non-connaissance de tout. Évidemment, je n'ai pas fait d'école, j'ai jamais été assistant. Donc pour moi, ça ne me semblait pas... toutes ces difficultés, je ne les mesurais absolument pas. Donc je suis sorti du film de Jarmusch et puis voilà, j'ai acheté un cahier, j'ai commencé à vouloir écrire un petit peu des scènes et à trouver 3 sous à droite à gauche. Et le premier film que j'ai fait, c'était un moyen-métrage en Pologne avec des acteurs de la troupe de Tadeusz Kantor.
Donc, vous ne vous éloignez pas de l'interdisciplinarité qui continue à être présente dans votre cinéma.
C'est vrai, peut-être que je suis allé en Pologne, loin comme ça, parce que comme je ne savais pas comment on faisait, je me suis dit là-bas on ne me regardera pas faire, on ne me verra pas faire. Pourquoi Kantor ? C'est vrai qu'à cette époque-là j'avais une grande admiration pour ses spectacles. J'étais parti presque pour un documentaire et il meurt à ce moment-là. Et donc c'est une fiction qui s'ouvre sur sa mort. Mais voilà, tout semblait se pénétrer assez logiquement dans ma tête à ce moment-là. Ouais.
Dans plusieurs de vos films, Bertrand Bonello... l'obsession sexuelle, de la différence sexuelle prévaut. Je pense évidemment à ce magnifique film qui est Tirésias, et je pense aussi à la Polonide. Est-ce que vous considérez que votre travail de cinéaste, c'est aussi un travail de compréhension d'une certaine réalité ?
En fait, je crois que plus que l'obsession sexuelle, parce que même le pornographe, évidemment, il y a de ça, je pense que c'est une... J'ai toujours été très attiré et touché par la marge. Et que très souvent, dans la marge, y a de la sexualité, beaucoup plus qu'au centre, en fait. Les milieux marginaux, les personnages marginaux, enfin voilà, mais même Saint-Laurent en est un, à sa manière. Et la marge a toujours été un endroit où j'ai j'ai été bien touché et ému, et souvent il y a un rapport avec la sexualité. Donc après, essayer de... Ce qui m'intéresse dans le pornographe, c'est pas tant la scène pornographique que le pornographe lui-même. Il se trouve que le pornographe lui-même est confronté à la scène pornographique.
Et qu'il est en plus interprété par Jean-Pierre Léaud.
En plus. Donc voilà, c'est plutôt ces liens-là, moi, qui m'intéressent.
Oui, mais en même temps, le pornographe, c'était une mise en abîme du cinéma et une réflexion sur l'image.
Sur l'image
du cinéma.
Parce
que quand le pornographe regarde les extraits de films pornographiques, il est confronté à une autre vision que celle qu'il en avait.
Oui, après, il y a dans ce film des choses très, très... Il y a énormément de choses différentes. Il y a des choses sur la paternité. Il y a des choses sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de 68, comment le cinéma marginal peut évoluer, qu'est-ce que la pornographie, qu'est-ce qu'un père de cinéma aussi, tout simplement. Ça, c'était vraiment les questions de ma trentaine très, très forte, oui.
Alors, cinéaste des marges, vous n'êtes pas pour autant un cinéaste marginal, parce que depuis quelques années, vous êtes connu, reconnu, sélectionné dans tous les festivals, vous pouvez avoir des budgets conséquents pour tourner les films que vous avez envie de faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre âme, Bertrand Bonello ?
Alors, je me suis fait la réflexion après Saint-Laurent, et je pense que probablement que Nocturama est aussi un petit peu une réponse à ça. Même j'en suis certain, oui.
Nous allons écouter un extrait de votre film, La Polonide. Et là, vous n'avez pas cédé aux sirènes du marketing. Nous écoutons.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a rien.
C'est jamais ce que tu penses, toi. Hein ?
Mais je pensais rien. Elle a bientôt fini.
Bah, tu me l'envoies après. Elle est belle comme une fleur de feu.
Merde. J'y arrive pas, j'ai les doigts maudits.
Le son des sirènes.
Nous venons d'entendre une scène de La Polonide. Pouvez-vous nous décrire le contexte, Bertrand Bonello ? Nous sommes dans une maison close et les clients choisissent les filles.
Oui, on est en 1900 à Paris, dans une maison close plutôt très luxueuse, influencée par des maisons comme le Chabanais. Enfin voilà, et là, ce sont des scènes de soirée, donc des scènes assez quelque part théâtrales. J'avais envie d'envisager les filles comme presque comme des actrices, et la mère Macrel presque comme un metteur en scène. Et voilà, c'est une espèce de circulation comme ça entre les salons, les chambres, où la joie est de rigueur. Et on verra dans les scènes beaucoup plus de jour que non, la joie n'est pas de rigueur, mais qu'il faut jouer le jeu, quoi. Oui.
Alors en même temps, La Polonide est aussi un film sur ce que ça veut dire regarder, ce que ça veut dire voir, parce que les clients, ils viennent pas forcément pour consommer. Ils viennent pour voir aussi.
Bah, il y avait plusieurs sens à ces maisons closes. Il y avait un lieu, c'était un lieu social. Il y avait des salons où les hommes pouvaient juste éventuellement prendre un verre et rentrer, ou monter avec une fille. Ou en effet, sur la question de la sexualité, je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que montrer une scène de sexe un peu banale, pour moi, elle était déjà induite dans le décor et elle, du coup, devenait inutile. Donc, j'ai vraiment pousser en avant le côté théâtre, en effet, et donc regarder comme un spectacle, fétichiser un petit peu tout ça, et ça me semblait plus intéressant et assez juste par rapport à certaines maisons de l'époque, notamment les plus luxueuses, ouais.
Alors, en même temps, ce film n'est pas une sorte d'ode, comme on pourrait l'imaginer, à un temps révolu pour des nostalgiques un peu vicieux. C'est au contraire un film très moderne, très contemporain, qui parle de la sexualité aujourd'hui et qui d'ailleurs, dans le dernier quart d'heure du film, se passe aujourd'hui aux portes de Paris. Donc il y a une sorte de collision entre la restitution d'un monde assez bourgeois, parce que c'était les bourgeois qui allaient dans les bordels, et puis la condition des prostituées aujourd'hui qui le font souvent pour des raisons de drogue, qui tout d'un coup fait partir le spectateur absolument ailleurs que ce qu'il a déjà emmagasiné de vos images, Bertrand Bonello. Pourquoi cette collision ?
Bah, d'abord, c'est vrai que tout le film se passe dans une maison close. Donc ça devient une espèce de bulle, comme ça. Et je me suis dit, pour sortir du film, il faut éclater la bulle et sortir dehors. Et puis, il y avait une idée que j'aimais bien, qui est assez romanesque. Hein. C'est une prostituée qui est jouée par Céline Salette. Et comprendre que 100 ans après, quand on la voit sur le trottoir à Paris aujourd'hui, bah, c'était une idée pour montrer qu'elle était prostituée à vie, qu'elle n'en sortirait jamais. Donc ça, c'était les deux raisons principales. Après, je voulais absolument pas dire que c'était mieux avant, et c'était pas... Mais oui, le monde a changé, et le rapport à la prostitution aussi a changé, oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue avec Bertrand Bonello, vous écoutez le choix musical de Bertrand Bonello. Bad Girl, Limoges, ça se prononce comme ça ?
Ça se prononce comme ça, et c'est la chanson générique de fin de la Polonide.
This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own. And I just wouldn't listen to nobody. She'll put you down. That's when I told Mama these words.
Bonello, on l'a dit tout à l'heure, vous composez les musiques de vos films, vous écrivez vos scénarios et évidemment vous réalisez la mise en scène et vous êtes aussi monteur. Pourquoi ce désir de tout contrôler ? Est-ce que c'est le syndrome de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire ce côté chef d'orchestre ?
Il doit y avoir de ça, il doit y avoir peut-être une obsession du contrôle aussi. Et après, il y a par exemple en anglais, il y a deux mots pour dire metteur en scène de cinéma. Il y a le director et puis il y a le filmmaker. Et le filmmaker, c'est vraiment celui qui fabrique son film. Il y a quelque chose de
plus Chris Marker.
Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus artisanal dans la manière d'envisager le rapport au film. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît assez. J'aime bien l'artisanat du cinéma. Et donc, ça passe par un petit peu toucher à toutes les étapes.
Vous écrivez tout le temps ?
J'écris assez régulièrement, oui. Je suis assez graphomane, j'ai des carnets un petit peu partout. J'aime beaucoup le crayon et le carnet, quoi, oui.
Vous avez des idées tout le temps ?
Malheureusement, non. Et franchement, une journée où on a une idée, c'est vraiment une journée réussie. C'est quelque chose qui... Je crois qu'il n'y a rien qui me met plus en joie que la naissance d'une idée. Et c'est un truc très, très abstrait. Hein. Deleuze en parle vraiment très, très bien de qu'est-ce qu'une idée. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, comment ça va. Après,
Elle vous tombe dessus.
Ça arrive comme ça. Il faut savoir. Après, il faut savoir l'accueillir. On peut après raisonner, dire j'ai fait ce film parce que ça, ça. Mais en fait, c'est faux. On ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses. Après, on accueille les idées, puis après on les travaille, on les malaxe. C'est pas que du hasard. Mais l'arrivée d'une idée, c'est la chose la plus mystérieuse et la plus belle qui soit, moi je trouve.
Vous vous laissez guider par vos idées. On peut dire d'ailleurs que vous êtes un cinéaste intuitif, Bertrand Bonello.
Oui, on m'a souvent collé une étiquette de cérébral, mais pas du tout. C'est vraiment l'intuition et la sensation qui me guident. Après, il y a un gros travail pour cadrer toutes ces idées et ces intuitions. Mais la naissance, c'est toujours l'intuition. Oui.
Êtes-vous un cinéaste fantôme ? Est-ce que j'ai bien en face de moi Bertrand Bonello ?
Ah, je sais que je suis un petit peu obsédé avec les fantômes, mais le cinéma est fait pour les fantômes. Hein. Quand on filme quelque chose, on le tue quelque part. Et à chaque fois qu'on regarde un film, on le fait revivre et renaître et revenir. Sur les acteurs, par exemple, il y a quelque chose de tellement fantomatique dans le cinéma.
Combien de films fantômes avez-vous à votre actif ?
Ah, les films fantômes, c'est les films qu'on n'a pas fait. Tous les cinéastes en ont. Hein. Vraiment, vraiment, je dirais que j'en ai deux que j'ai poussé très très loin et que j'ai pas pu réaliser.
On peut lire le scénario, hein, puisqu'ils ont été publiés.
Oui.
Ces scénarios inaboutis. Et quand on les lit et qu'on prend le temps de les lire, on peut se dire mais pourquoi ? Pourquoi ne pas les reprendre aujourd'hui ?
Ah, c'est ça. D'abord, ils datent un petit peu et j'ai réussi à m'en débarrasser. En fait, c'est quand on a une idée aussi, tout le travail, c'est d'arriver à s'en débarrasser pour pouvoir en avoir une autre. Et le problème des films qu'on fait pas, c'est que les idées continuent à vous obséder et à vous hanter. Et là, avec l'expo à Beaubourg et puis le livre, j'ai réussi, je pense, à me débarrasser de ces deux scénarios. Donc, je pense que je vais les laisser là où ils sont, là.
Pour laisser la place nette.
Exactement.
Nous allons écouter la voix de Roland Barthes, c'était au micro de Roger Vrigny, une émission sur France Culture. Il va parler de l'écriture, comme excès, c'est une archivina du 13 janvier 1972.
L'écriture est un excès, ce sont donc dans des expériences excessives que l'on pourrait retrouver, sous une forme peut-être abusive ou délirante ou maniaque, ce qui existe en réalité mais qui serait diffus.
Exactement. Oui, je crois que le grand problème humain, n'est-ce pas, c'est l'homme se débat toujours avec son désir, c'est le fait anthropologique, et par conséquent, son activité propre, c'est justement d'essayer de donner des figures extrêmement multiples, des visages très divers à ce désir en le déplaçant, mais sans le perdre jamais, en quelque sorte.
Est-ce que l'écriture scénaristique est pour vous une écriture pleine et accomplie, Bertrand Bonello ? Car quand on regarde ce livre qui s'intitule « Film fantôme » et qu'on lit deux scénarios, par exemple celui qui s'intitule « Madeleine d'entre les morts » ou « La mort de Laurie Markovitch », on se dit que c'est peut-être effectivement de l'intuition, des visions, mais qu'en même temps, chez vous, en tout cas dans tout votre cinéma, c'est très, très, très écrit.
Oui, c'est très écrit. Après, l'objet scénario, c'est un drôle d'objet, hein, parce que c'est un objet qui est destiné à disparaître. On écrit un scénario pour trouver de l'argent, pour le montrer aux acteurs, aux techniciens, etc.
Donc, ça ne sera pas forcément ce scénario-là, d'ailleurs, qu'on va tourner.
D'abord, ce n'est pas forcément celui-là, mais on écrit un scénario pour générer du désir, et après, cet objet doit disparaître pour qu'un film apparaisse. Donc, c'est un drôle d'objet qui n'est pas... Bon, là, ils ont été publiés parce que pas tourné, mais enfin, ce n'est pas fait pour être publié, à part peut-être, oui, un scénario de stage, parce que c'est tellement bien écrit qu'on peut le publier, mais sinon ça n'est pas fait pour être publié. Et d'ailleurs, moi autant je peux écrire un scénario, mais jamais je ne me lancerai dans l'écriture d'un livre, qui me semble une spirale vertigineuse.
Faut jamais dire ça.
Ouf, je connais mes limites. Enfin, il y a un rapport à la solitude, par exemple. Le scénario, c'est un petit peu solitaire le temps de l'écriture, mais c'est fait pour ne plus être solitaire, puisque c'est fait pour ramener du monde avec vous.
C'est ce que disait Marguerite Duras. Elle disait qu'elle faisait des films quand elle n'en pouvait plus de la solitude de l'écrivain.
Ben, je comprends très bien. Alors, sur la solitude de l'écrivain, elle a dit des choses absolument magnifiques, hein, et qui m'ont certainement bloqué pour un jour penser faire un livre de littérature. Mais c'est un drôle d'objet, le scénario, en effet. C'est à la fois une Bible, et une Bible qui est faite pour disparaître. Et il faut qu'elle disparaisse.
Alors, Nocturama est sorti au début de l'automne dernier. Je n'ai personnellement pas compris pourquoi il n'avait pas été sélectionné au Festival de Cannes. Et puis, il a, je crois, très bien marché, même s'il a divisé une partie de la critique. L'histoire se passe aujourd'hui. Ce n'est pas de l'anticipation, ce n'est pas de la science-fiction, et pourtant, ça a l'air d'être du réel, et comme souvent chez vous, Bertrand Bonello, ce n'est pas tout à fait du réel.
Oui, j'avais envie que le film soit un mélange de d'ultra-réalisme et d'abstraction, et qui est vraiment les deux. Alors quand je parlais d'ultra-réalisme, c'est une attention extrêmement juste et exacte à des détails, et en effet une forme d'abstraction, parce que le terrorisme aujourd'hui, c'est pas forcément ça, parce que quand dans la deuxième partie du film, il se retrouve enfermé dans un grand magasin à la Samaritaine, là on quitte un petit peu le rapport au réel. Enfin voilà, cette espèce de voyage entre les deux que j'ai vraiment chercher.
Comment est née l'idée ?
Alors l'idée, elle est née pendant l'écriture de la Polonide, où j'avais un petit peu peur, en faisant un film en 1900, d'être très déconnecté du contemporain. Et je me suis dit, il faut que je revienne à de l'ultra-contemporain pour sortir de ce film d'époque. Et ma sensation de l'ultra-contemporain, c'était en effet quelque chose qui explosait. Quoi. Voilà. Une tension tellement palpable qu'elle finissait par une explosion.
Donc c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui part de différents points de Paris, qui vont prendre le métro pour se réunir dans un endroit d'où ils vont faire exploser quelques points stratégiques dans Paris. Et donc, vous avez imaginé ce scénario, Bertrand Bonello, bien avant les attentats.
Ah bah oui, c'était en 2011. Quand les attentats de novembre 2015 ont eu lieu, qui pourraient faire penser au film parce qu'il y a là le côté simultané. Mais
certains, hélas, en ont eu une grille interprétative par rapport à la réalité très douloureuse des événements postérieurs.
Sauf que moi, évidemment, j'avais fini déjà mon premier montage. On a un tempo dans le cinéma qui est très très lent, hein, très très long. Donc j'avais fini mon premier montage et évidemment, c'était un petit peu troublant. Je me suis douté que ça allait un petit peu embarrasser la sortie du film, la rendre un peu plus délicate. C'est tout à fait normal, ça a été le cas. Hein. Une partie de la division des critiques, elle a été aussi sur ça. Qu'est-ce que c'est que ce film qui est très contemporain, mais qui n'est pas le réel ? Et du coup, comment défendre une idée, oui, du contemporain, mais pas un film contemporain, oui, mais pas un film d'actualité ? Et ça, pour certaines personnes, c'est difficile à concevoir. Un film contemporain doit être dans l'actualité. On aurait presque attendu du film qu'il vous donne des réponses à des choses. Par ailleurs, je n'ai pas ces réponses et j'aurais été bien fou d'essayer de les apporter.
Alors, certains ont dit que vous aviez en quelque sorte magnifié la violence révolutionnaire absurde et totalement gratuite au sens sartrien du terme, la violence de l'acte gratuit. Vous l'auriez magnifié par une sorte d'esthétisme assez vénéneux et que vous n'auriez pas pris en charge la réalité de la douleur, de ce deuil collectif qui a suivi après les attentats.
Alors en effet, bon, d'abord quand les attentats sont arrivés, j'avais déjà fini mon film, donc je ne pouvais pas prendre en charge quelque chose que je ne connaissais pas. Et après le procès qui m'a été fait un peu sur l'esthétisme de la violence, en gros, c'est parce que le film est très contemporain, parce qu'on ne fait pas ce procès-là à des films ultra-violents qui l'esthétisent aussi, la violence. Hein.
Et qui donnent peut-être encore plus envie de violence à celles et ceux qui regardent ces images.
Alors, je ne me compare absolument pas à Coppola, mais quand il fait Apocalypse Now, y a un rapport esthétique à la violence qui est complètement dingue, et sans parler évidemment des westerns, des polars, des Scorsese, etc. Donc c'est, sauf que c'est, voilà, on est dans le passé, donc ça passe. Quand on est sur un film qui est plus en rapport avec l'actualité et avec la douleur, alors tout d'un coup on est tombé sur ce concept d'esthétisme de la violence, mais je pense que c'est pas parce qu'on fait un film violent qu'il doit être moche ou mal pensé au montage, ou enfin voilà.
On en écoute un extrait de ce dernier film, donc Nocturama, qui sort en ce moment même en DVD.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes client ici ?
Oui.
Puis-je vous demander votre numéro de compte, s'il vous plaît ?
Non, je le connais pas par cœur. Je viens juste déposer un chèque.
Vous pourriez me présenter une pièce d'identité à la caméra, s'il vous plaît ?
J'ai rien sur moi, je suis désolé, mais j'ai un compte chez vous.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Devaux.
Votre prénom, s'il vous plaît ?
André.
Votre date de naissance ?
17 septembre 92.
Votre adresse ?
64 rue du Bac, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît, je suis claustrophobe. Je peux rentrer ?
Je suis désolée, monsieur, mais nous avons de nouvelles mesures de sécurité.
Et Alors, vous pouvez situer l'action de ce moment précis, Bertrand Bonello de Nocturama?
Alors, ça vient dans la première partie du film, qui elle-même est trouée par quelques flashbacks. Et donc ça, c'est une des scènes de flashback où c'est un personnage qui veut aller dans une banque pour déposer un chèque et qui se retrouve dans le sas de sécurité et il n'arrive plus ni à rentrer ni à sortir et il est pris de claustrophobie. Voilà, après, c'est des petits détails comme ça qui, pour moi, sont assez importants parce que il y a une déshumanisation comme ça du rapport à l'autre qui fait partie des choses qui peuvent vous rendre fou. Voilà.
Les glaces, les vitrines, les fenêtres, les sas, tout ça vous obsède en tant que cinéaste. Et ce film Nocturama, il est aussi un film sur cette modernité qui nous encercle et qui fait que notre rapport au corps est sans arrêt contraint et que nous vivons en permanence dans une société de surveillance.
Oui, le rapport au corps, mais le rapport à l'autre. Enfin, le rapport à l'autre, il disparaît incroyablement. Mais on prend un petit détail, si vous appelez un opérateur, une ambassade, etc., vous ne parlez plus à personne. Vous n'avez plus que des machines en disant, si vous voulez ça, press one, press two. Enfin, c'est cette déshumanisation qui vous tient complètement à distance et vous maîtrise, hein, avec ce concept de surveillance permanent qui voudrait dire que la transparence est aujourd'hui la plus belle des choses, et ça, je ne crois pas. Vive le secret par instant aussi. Voilà, rendre à pas mal d'endroits l'époque totalement terrifiante.
Dans Nocturama, cette bande de jeunes est issue de différents milieux sociaux. Et certains critiques vous ont reproché d'avoir composé une sorte de bouquet, entre guillemets, de jeunes terroristes qui seraient liés par quoi ? Par rien du tout, si ce n'est le désir de faire exploser des bombes.
Oui, je pense que les gens auraient préféré que je dise, voilà, ça vient, c'est ces quatre jeunes arabes de Saint-Denis qui ont décidé de faire ça. Alors tout d'un coup, quand on pointe quelque chose précisément, eh ben, déjà on le rationalise et ça rassure. Et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de montrer que mon sentiment comme ça d'étouffement est quelque chose de beaucoup plus général. C'est aussi à ça que le cinéma sert. Moi, je suis pas là pour faire des thèses comme ça. Et donc voilà, je voulais pas pointer une chose plutôt qu'une autre, mais montrer que ces jeunes qui ont entre 18 et 20 ans à peu près, ils n'ont peut-être pas les mêmes raisons, mais ils peuvent avoir une rage commune, qui est une idée un petit peu conceptuelle. Mais on a le droit d'avoir des concepts aussi quand on fait un film.
Dans la deuxième partie du film, car je crois que le film est divisé en deux parties, cette bande de jeunes va se retrouver enfermée dans un grand magasin à Paris. Et là, il va se passer des choses, encore une fois, dans toute votre cinématographie, Bertrand Bonello, ça revient comme une thématique récurrente, c'est à quoi sert cette société de consommation ? Car dans ce grand magasin, où ils sont encerclés par la police, eh bien, il y a quoi ? Il y a des mannequins. Il y a des objets de luxe, il y a des vêtements de luxe, il y a du champagne de luxe, il y a des parfums de luxe.
En fait, c'est quoi ça ? C'est la recréation d'un monde à l'intérieur du monde. C'est-à-dire, c'est la recréation d'un monde qu'on nous vendrait comme parfait à l'intérieur d'un monde qui serait imparfait. Sauf que ce monde-là, il n'existe pas. Il est totalement virtuel. Et c'est vrai que alors, le décor, c'est un grand magasin très luxueux sur 8 étages. Enfin, c'est pour moi le meilleur décor de cinéma que j'ai eu. Parce que c'est extraordinaire tout ce que ça peut raconter sans être trop didactique. Et sur l'intérieur, l'extérieur, le vrai, le faux, qu'est-ce que c'était moi, c'était une des bases du projet du film, c'était ce décor de grand magasin.
Alors, vous savez, dans cette émission, L'Heure Bleue, nous demandons à une personne qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer. Nous avons choisi un cinéaste. Non, il n'a jamais tourné de film. Il a permis à beaucoup de cinéastes de montrer leur premier film. Il a actuellement une rétrospective à la Cinémathèque française et vient de paraître aux éditions Arte un livre d'entretien avec lui. Je veux parler de Pierre Chevalier. Écoutez ce qu'il dit de votre travail.
Bertrand Bonello, je l'ai découvert par ses films d'abord, mais lui-même, je l'ai connu en 2008. Et j'ai découvert quelqu'un de rare, une sensibilité à vif, une intelligence extrêmement rapide et une culture phénoménale. Pour un cinéaste, il s'intéressait autant au cinéma qu'à la musique. C'est quelqu'un qui connaît très bien la musique et aux arts plastiques. Il a fait d'ailleurs une très belle manifestation au Centre Pompidou quelques années plus tard. Bertrand Bonello, pour moi, est le cinéaste des corps. Tout ce qui surgit comme ça dans l'être humain, et particulièrement dans ses mouvements, on dirait que ça le touche beaucoup, et je crois que ça le touche. Sa sensibilité, comme ça, fait capter un petit peu le mystère des corps, des mouvements. C'est vraiment un cinéaste physique. Apparemment, on pourrait le trouver très intellectuel, mais moi, je crois vraiment que c'est un cinéaste d'un nouveau réalisme et d'un réalisme qui s'attache particulièrement à la jeunesse et au corps. Oui, vraiment. Je vois pas tellement d'équivalent chez l'autre cinéaste. Et tout ça, il le fait avec une rare élégance, une certaine distance, mais il sait capter comme ça la violence qu'il y a en nous, quoi, tout simplement. Naturama est un film que j'aime beaucoup, sur un sujet pour le moins explosif, puisqu'il peut faire référence, bien qu'il ait été écrit bien avant, aux attentats de Paris. C'est un film qui est tout en accord et en passion avec les jeunes. Et à 20 ans, c'est vrai que c'est pas facile. Bertrand Bonello a su capter comme ça à la fois la violence, à la fois la passion, l'énergie de cette jeunesse qui ne sait plus où aller, qui n'a plus d'utopie. Et ce film qui allie, je dirais, un peu violence et élégance est vraiment percutant. Il reste dans la mémoire, il reste dans le cœur. Et même si, en effet, ces jeunes gens veulent tout faire sauter, Bertrand les regarde avec attention, avec même affection. Et ça, c'est formidable. Quel est votre prochain film, Bertrand ?
Ben voilà, c'est la fin de l'émission et c'est la bonne question.
Et c'est la bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, voilà, parce que je après Nocturama, c'est un petit peu difficile de rebondir tout de suite. C'est un film quand même qui était assez lourd et important, et voilà, je commence à prendre des notes.
Mais des notes pour faire quoi ? Pour faire une installation ? Pour faire une performance ? Pour faire un concert ? Pour faire... encore un film sur la jeunesse ?
Non, je crois que j'ai quand même beaucoup enchaîné. Là, j'ai besoin de lire, de voir des tableaux, de me remplir un petit peu, oui.
Et un cinéaste d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui passe son temps à rêver pour un jour avoir une idée et concrétiser son rêve ?
Oui, je crois, oui. Et puis savoir aussi regarder le monde et le transformer, oui.
Eh bien, c'est pas mal pour un cinéaste, transformer le monde. Eh bien, on va se quitter en musique, Bertrand Bonello. Nous avons fait le choix, c'est difficile encore une fois devant vous, mais nous avons choisi une jeune femme que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Cléa Vincent. Retiens mon désir, vous la connaissez ?
De nom.
Parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu serais la mer. On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires. Retiens mon désir. Ne laisse pas s'enfuir. Je serai le vent et tu serais la terre. On pourrait marcher. marcher dans l'avenir, changer la couleur de tes souvenirs. Retiens mon à l'envers. Je serai le feu et tu serais la pierre. Prendre le tout dernier métro dans les couloirs et leurs courants d'air. Retiens mon désir.
Merci Bertrand Bonello. Je rappelle que Nocturama vient juste de sortir en DVD et qui va peut-être réallumer une guerre entre les critiques. Mais vous avez compris que nous, ici dans l'équipe de L'Heure Bleue, on a beaucoup aimé. Pendant L'Heure Bleue, nous avons écouté Foxygène, Follow the Leader, Bad Girl de Lee Moses et Cléa Vincent, Retiens mon désir. Merci à Thierry Dupin. Merci à Clément Baudet qui a réalisé cette émission, qui a été préparée comme chaque soir par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir, Florent Beauvallet. Merci à toutes et à tous, et comme chaque soir, vous retrouverez, après le prochain journal de la rédaction, Mishka pour son Very Good Trip.